retrouve dans les années 2000 dans les enquêtes du Gartner Group sur les marchés de l'informatique. Donc, vous voyez, il y a une assez remarquable stabilité. Si on compte en valeur, en performance, ça va de 12 à 16% du marché au cours du depuis le milieu jusqu'au depuis le premier tiers jusqu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Donc c'est assez intéressant. Alors évidemment, il faut tenir compte de la de l'évolution du rapport performance-prix des machines. Il faut tenir compte de pas mal de facteurs, de l'élargissement de la demande avec l'informatisation progressive de banques dans des quantités de pays qui n'avaient rien de cette sorte jusqu'aux années 60. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur. Il faudrait aussi tenir compte de quelque chose qui est plus difficile à mesurer, mais qui est essentiel, c'est l'effort constant des banques pour améliorer le rendement de leur informatique, pour obtenir plus avec un coût stable ou même un coût moindre. Et là, il y a des plans qu'on trouve dans les archives bancaires pour améliorer le rendement de leur informatique interne. Une autre chose qu'il faut souligner, qui fait aussi que c'est un grand sujet parce qu'il s'agit d'un phénomène massif au XXIe siècle, c'est ce que dans le jargon du métier, ils appellent la bancarisation. La bancarisation, c'est la diffusion de l'usage des banques auprès d'une clientèle de plus en plus vaste. Si vous voulez, dans les années 1860, une banque avait quelques milliers de clients qui y voyaient essentiellement non pas un moyen d'avoir des comptes en banque, parce que les gens avaient de l'or, des portefeuilles dans leur poche ou dans leur secrétaire, mais un moyen de gérer des titres. La banque, et même pour beaucoup de clients des banques jusqu'aux années 20, la banque c'était avant tout un gestionnaire de leurs titres boursiers, de leurs valeurs mobilières. Voilà, le découpage des coupons. Et à partir des années 20, à partir de l'entre-deux-guerres, les banques font de plus en plus d'efforts qu'elles avaient déjà commencé avant, mais qui s'accentuent pour conquérir des clientèles nouvelles dans les classes moyennes. Et puis, dans les années 60-70, c'est un nouvel effort pour conquérir les classes populaires. Je reviendrai là-dessus. Par contre-coup, les banques se trouvent, à cause même de cette bancarisation qu'elles ont orchestrée et voulue, face à une masse croissante de données à traiter. Face à une masse croissante de clients, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous enregistrer des graphiques, mais évidemment, j'ai commencé à faire de beaux graphiques sur le nombre de comptes, la croissance du nombre de comptes clients, la croissance du nombre d'écritures. Car dans quelques banques, on peut remonter jusqu'aux années 30 pour les statistiques du nombre d'écritures sur chaque compte, enfin sur l'ensemble des comptes. La croissance du nombre de titres gérés ou de portefeuilles titres, etc., etc. Et bien entendu, la croissance du nombre d'employés des banques, puisqu'au départ, ces traitements étaient manuels. Et donc, cette bancarisation amène les banques à être confrontées à un gros problème qui est celle de leur gonflement en termes de main-d'œuvre. Ce qui, dans les années 20, signifie aussi un gonflement en termes de salaire, parce qu'avec 1,5 million de Français tués au front, la main-d'œuvre est rare. Les syndicats en profitent, ils ont raison. Et donc, on a un personnel de plus en plus nombreux, de petits employés pas qualifiés ou peu qualifiés, qu'on s'efforce de former, qui forment des bataillons rêvés pour le militantisme et les mobilisations syndicales, et qui nécessitent en plus une discipline de fer, parce qu'une banque c'est une armée, il ne s'agit pas de faire des erreurs de calcul, de manipulation, de laisser passer un délai pour une émission d'action, quelque chose comme ça, et ça devient très difficile à gérer. Et donc le désir de remplacer la main-d'œuvre par de la mécanique qui est plus fiable, qui ne se met pas en grève, qui ne fait pas d'erreur, ou alors elle tombe en panne, mais normalement elle ne fait pas d'erreur, est de plus en plus important et se retrouve à peu près dans toutes les banques. avec des modalités variées suivant la vocation de ces banques. Parce que, et c'est mon avant-dernière ligne ici, on dit la banque, mais en fait il y a plusieurs sortes de banques, comme vous le savez. Plusieurs sortes de banques qui, c'est pas des catégories tombées du ciel avec la création de l'univers, c'est des catégories historiques, qui sont historiquement construites. Notamment la distinction entre banque d'affaires et banque de détail s'est développée à partir des années 1880, notamment en France, à partir d'une grande crise bancaire, un petit peu analogue à celle qu'on a connue récemment, où des banques avaient imprudemment investi l'argent de leurs clients, des comptes courants de leurs clients dans des opérations genre canal de Panama ou des mines qui promettaient la lune mais qui n'ont pas tenu grand chose au Kamtchatka, et il y a eu des faillites. Une des principales faillites, c'est par exemple celle de la banque de l'Union parisienne, de la banque de l'Union générale, et qui était une grande banque catholique, donc très impliquée dans la politique de l'époque. Et le comptoir d'escompte de Mulhouse, qui après faillite est devenu la Banque nationale pour le commerce, la BNC. Et cette crise a incité les banquiers à se mettre d'accord sur le fait qu'il faudrait un minimum de réglementation, en tout cas pas de réglementation publique, mais de spécialisation, entre des banques d'affaires qui investiraient l'argent des investisseurs et puis des banques de détail qui utiliseraient bien sûr l'argent des comptes courants de leurs déposants pour faire des opérations de trésorerie, de prêts à court terme, mais pas de prise de capital ni même de prêts à long terme. Donc distinction historicisée et explicable par la conjoncture entre banques d'affaires et banques de détail. Qui commence à se durcir, cette distinction, un peu dans tous les pays pendant la crise des années 30, hein, aux États-Unis, avec la réglementation qui a été supprimée plus tard dans les années 80 et qu'on a commencé à vouloir rétablir depuis une dizaine d'années. En Belgique, c'est aussi dans les années 30 qu'on sépare les quelques grandes banques belges en banques d'affaires et banques de détail. Et cette distinction est